Alors, Idir, en près de 40 années de carrière, vous avez publié 6 disques, 6 albums en studio, plus un en concert et un best-of.
Il y en a un où, dans lequel on a fait ce qu'on appelle un best-of de chansons qui existaient déjà dans les disques que tu cites. Voilà.
Finalement, vous êtes un artiste, on peut dire, assez rare. En même temps, vous avez une certaine permanence. Vous êtes dans le cœur et la mémoire du public. Comment vous expliquez ce phénomène?
Je pense que c'est parce que, comme je n'ai pas choisi ce métier, qu'il est venu à moi, j'ai dû garder la distance, si nécessaire et indispensable, pour ne pas être le jouet de ce que j'étais en train de faire, parce que c'est une les choses du show business, de starification, je ne sais pas si on dit ça, vous démolit un bonhomme. Donc, comme j'ai chanté des choses qui ont fait partie de mon existence, je suis incapable de te dire aujourd'hui je prends un stylo et puis demain à 20h12 je vais commencer à écrire, je ne sais pas. Par contre, à la faveur des rencontres, des discussions, des choses qui se passent dans ma tête et puis qui se transforment des fois en notes de musique ou en mots. Sinon, quand j'ai rien à dire, je me tais. Voilà. Et je n'ai pas à interpréter ou à composer une histoire que je chanterais si elle ne faisait pas partie de mon parcours.
Alors justement, vous avez connu en 1976 un succès international et même, je pense que c'était quelque chose d'inédit pour l'Algérie, pour un artiste algérien avec Avaa Inouva. Ça a dû bousculer votre vie et puis, est-ce que ça vous ennuie que parfois on vous ramène à ce succès-là?
Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il faut assumer, hein. J'y suis résigné de toute façon, hein, d'avoir du succès.
Mais c'est une chanson que vous chantez encore en concert?
Oui, elle est incontournable parce que c'est elle qui m'a fait connaître. C'est à partir d'elle que plusieurs choses ont démarré, pas seulement pour moi, mais pour les gens qui ont la même identité, la même culture que moi, parce qu'on avait réveillé Ben Mohamed, qui était le parolier de cette chanson, et moi-même. Des choses qui étaient enfouies en chacun de nous. Et donc, on disait en musique tout haut ce que les gens avaient en eux, en gestation, qui était là, mais qui était bien réel. Et tout ça, ça a ouvert. En tout cas, je te parle des gens qui connaissent la langue. Pour les autres, j'imagine que c'est plutôt la voix de la fille, du garçon, la mélodie qui leur parlait, quoi.
Alors, le sociologue Pierre Bourdieu, disait que Idir faisait partie de chaque famille.
Oui.
Alors, dans quel contexte il a dit ça? Est-ce qu'il parlait de chaque famille en France ou il parlait de la Kabylie ou de l'Algérie dans son entier?
Je suppose qu'il parlait des gens qui aimaient ma musique, qui a commencé déjà par ceux qui comprenaient la langue avec laquelle je chantais. Lui, il a dit ça parce qu'il a travaillé sur la Kabylie, pas mal, puis bon, on s'est déjà connus. Il s'est rendu compte que la position d'un garçon, comme il dit, était un peu différente d'un simple rapport entre un public et un chanteur. Ça allait au-delà, parce qu'il y a une mémoire qui joue à chaque fois, une sorte d'identité que l'on recherchait tous. Et donc, il a vu qu'à travers ce que je disais, les mots que je chantais, que les gens étaient preneurs parce que ça leur rappelait aussi des choses qui leur appartiennent. Donc, c'est vrai, d'ailleurs, il a raison, je ne me suis jamais senti étranger chez les gens qui m'invitaient comme ça. Et donc, c'est vrai que je suis un membre de chaque famille qui a mes chansons.
Alors, Tamzouarouz, Azulfelay, voilà, c'est admissible quand même le une ou deux questions. D'abord, Tamzouarouz, c'est Idir, le nom, le pseudo, le nom de scène, le nom de. Pourquoi?
D'abord parce que, bon, c'est un nom qui est bien chez nous. Ensuite, les deux consonnes D et R. Ce sont des consonnes qu'on met dans des mots qui sont synonymes de vie ou des choses qui sont autour de la vie. To dhirth, c'est la vie. Tadderth, c'est le village, donc le lieu de vie. Idir, il est vivant. Adidir, il vivra. Voilà, donc je suppose que J'ai dû, sans penser à tout ça, à mon âge, à 17 ans à l'époque, je savais que ce nom était authentique, qu'il reflétait donc l'histoire de mes racines, et je l'ai choisi. Mais au départ, il y avait une autre chose, c'est que, comme je chantais à la radio, je ne voulais pas que mes parents sachent que moi je m'appelle Hamid. Donc, les deux, pour ces deux raisons-là, j'ai pris le pseudo de Idir.
Deuxième question, est-ce que tu te considères comme l'un des porte-drapeaux pour la culture berbère?
C'est beaucoup ça. La culture berbère fait partie de mon essence même. Parce que, comme je l'ai dit, je suis le produit de mon papa, de ma maman. Et les premiers sons que j'ai entendus, ce sont ceux de ma famille. Les premières vannes, l'humour, après tu sors, tu as le village. Donc tout ça, c'est des choses que j'avais en moi, elles sont acquises, innées. Tout ce que j'ai appris par la suite, il a fallu que je l'importe. Donc c'est du penser, un peu plus intellectualisé, voilà. Après, je me suis rendu compte qu'en sortant de mon village, la culture du monde ne s'arrêtait pas là. Et qu'il y avait des gens qui étaient différents, qui étaient autres, ni pires, ni meilleurs, mais qui sont là avec moi et qui sont censés être de nous enrichir à partir de nos différences respectives. Et je me suis rendu compte après de l'aspect politique, quand je suis sorti du village où il n'y avait pas de lycée, on était sur Alger, que je venais dans une ville où on parlait une autre langue que je ne comprenais pas du tout. Et j'étais vraiment le plouc de service à l'époque au lycée, hein, parce que tu vois un peu comment c'est, tu viens du bled, un bledard, machin. J'ai subi toutes ces... je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas des humiliations, même si j'en sentais quelques-unes comme telles. C'est des choses qui étaient embêtantes. Et puis quand on a commencé à chanter, ça a été une revanche extraordinaire sur les gens, sur la vie, sur moi. Parce qu'on a commencé à dire des choses que ceux-là même qui me vilipendaient a adopté. Voilà, donc c'était le happy end pour tous, quoi. Voilà. Quant à te dire, je suis porte-drapeau, j'ai toujours été un mauvais général de brigade. Parce que j'estime qu'il y a un pouvoir qui, jusqu'à aujourd'hui, je pense, hein, nous aliène, essaye de nous changer, de supprimer toute notre essence originelle. Et nous, on se bat contre ça. On était fiers d'être Algériens à l'époque. Tu n'étais pas né en 62, je suppose. C'est quand même, voilà. On était fiers d'appartenir à un pays qui venait de réussir une révolution. On n'a pas sorti la France, on a sorti une sorte de colonialisme, il s'est trouvé que c'était le colonialisme français. Fier d'appartenir à un pays qui était le phare du tiers-monde, champion du non-alignement, on recevait Che Guevara, Fidel Castro. Donc t'imagines la fierté qui se passe dans un lycéen, dans la tête d'un lycéen de 17 ans. Et à côté de ça, ces gens qui prôner la souveraineté des peuples, la prise en charge de leur destin, voilà qu'ils nous brimaient dans notre culture maternelle. Donc on a une sorte de malaise, je ne sais même pas comment te l'expliquer, un malaise qui reflétait un besoin, donc une révolte. S'il n'y avait pas ce malaise-là, je n'aurais peut-être pas chanté. Mais si je n'avais pas chanté, j'aurais participé autrement à la reconnaissance de cette culture, voilà.
Alors, je sais qu'il y a eu une rencontre entre toi et Farhat Mahni. Comment elle s'est déroulée, cette rencontre, et pourquoi?
Il faut nous dire d'abord qui est-ce.
Farhat Mahni est un enfant des années 70, peut-être porte-drapeau, celui-là on peut le lui coller, hein. Du printemps berbère, c'est quelqu'un qui a eu à prendre des positions pour lesquels il a souffert jusque dans sa chair, il a fait de la prison, et etc. Voilà. Nous avons suivi deux routes, mais tout le long de ces deux routes-là, on avait des affinités, des mêmes idéaux sur certaines choses. Par la suite, il y a eu, pas une divergence, mais une différence de point de vue par rapport à la politique. Moi, j'étais beaucoup plus pour chanter l'émotionnel, susciter une adhésion auprès des gens et puis ensuite faire avancer les choses. Et puis en Algérie, à l'époque, après 88, il y a eu les partis politiques qui commençaient à... Voilà, il y avait un semblant d'opposition, une récréation démocratique dans laquelle les gens trouvaient un petit peu leur trace, leur repère. Voilà. Moi, dès le départ, je n'étais pas dupe parce qu'un gouvernement, un pouvoir qui gouverne un pays comme l'Algérie, où le gâteau est énorme, où l'enjeu était par milliards de milliards, donc voilà, je ne voyais pas en quel honneur et à cause de quoi ils pouvaient nous céder quoi que ce soit. Voilà, d'autant plus qu'ils avaient envie d'avoir un peuple à leur portée et de ne pas trop l'éduquer ou lui faire comprendre des choses, parce que sinon, leur place elle-même s'en trouvait menacée. Et donc on a continué, moi, mon bonhomme de chemin, à essayer de chanter devant qui veut bien m'écouter. Et puis les partis politiques qui commençaient donc à naître et à expliquer, à dire des choses. Ils ont fait d'ailleurs un travail qui a été utile à bien des égards, mais qui n'était malheureusement pas suffisant. Par la suite, je pense que Farhat, dont tu parles, n'a pas trouvé l'écho qu'il voulait auprès de certaines instances, donc il a fallu qu'il se retourne sur lui-même, voyant ce qu'il a envie de faire. Et puis il est arrivé à la conclusion que la région de Kabylie était plus cohérente avec son autonomie et voire son indépendance par la suite. Mais cela posait des problèmes d'une autre nature. Et donc, comme on se respecte énormément et artistiquement, on aime ce qu'on fait, ce que fait l'autre à chaque fois, je crois qu'il était nécessaire qu'on se rencontre, qu'on se voit. Et là, bon, il est venu à la maison, on a mangé ensemble. Il voulait qu'on fasse un titre, un projet artistique tous les deux. Ben, j'ai pas de raison. Bon, j'ai chanté avec Manu Chao, Goldman, avec Matou Blounès, Saïd Manguilat, avec même Khaled, le nouveau Marocain. Et Mami, il n'y a pas de raison à ce que je ne chante pas avec Farhat. Ce qu'il est, il l'est. La seule chose que j'ai toujours demandé aux gens, c'est de le laisser parler, argumenter de façon à ce que les gens fassent eux-mêmes l'opinion qu'ils ont du projet qu'ils proposent aux gens à qui ils s'adressent.
Vous êtes en concert ce soir au Métaphone à Oigny, au cœur du bassin minier. Est-ce que vous avez une relation particulière avec cette région ?
Mon grand-père était du côté de Valenciennes à l'époque. Voilà. J'ai des cousins, un cousin très proche qui était à Douai, ça ne doit pas être loin, dans les mines de charbon. Donc oui, ça me épuie, mais les gens de ma communauté qui venaient ici essayer d'améliorer leur quotidien, celui de leur famille, avec bon, tous les avantages et tous les drames qu'on connaît. D'ailleurs, il y aura une chanson à ce sujet qu'on leur dédiera.
Ce concert, mais comme d'autres, se déroule dans un certain contexte. Pour un artiste, il est forcément sensible à la situation dans laquelle on est. Comment vous voyez un peu la situation en France ?
Mon Dieu. Je ne sais pas, je vois que... Bon. La France, moi, il y a beaucoup de paradoxes que je vois. D'abord, quand je suis venu en 1975, ça m'a fait l'effet d'un cirque. Parce que les gens les voyaient à la télévision, ils discutaient, machin, ils étaient d'accord, pas d'accord, à la fin ils se touchaient la main. J'avais pas l'habitude de ça, nous on a un seul journal, un seul peuple, une seule idée, ça s'arrêtait là, c'était facile. Par contre, ce que j'ai vu ici m'a apporté le sens du discernement, la reconnaissance de l'autre, le fait d'aller chez l'autre, parce que... Mis à part les groupes extrémistes qui refusent, qui rejettent tout, il y a une France qui est là, qui a tendu la main, qui travaille avec les gens de chez moi. Mais les paradoxes que je vois, par contre, par rapport à la religion, la position de Dieu, des religions, c'est que je vois dans la télé, à la télé, par exemple, un rabbin avec un imam, avec un prêtre, qui sont là, on est tous des frères, qui se réclament du même Dieu, mais qui tient chacun à sa religion. Ça, je trouvais ça un peu bizarroïde, parce que si Dieu existait, il n'aurait pas permis trois religions, à mon avis. Ou alors il aurait inventé donc le messianat, envoyé d'abord, comment il s'appelle, Moïse, après Abraham, Jésus, et puis Mohammed. Alors deux choses l'une, où on respecte cette logique. Et à ce moment-là, ils nous enverraient à chaque fois des choses comme on faisait des updates en informatique, hein, 2.0, 2.1, parce qu'à chaque fois il y avait des mises à jour, je ne sais pas quoi. Et alors à ce moment-là, il faudrait s'arrêter sur le dernier, ou alors tout ça n'existe pas. Alors ça, c'est le, comme on dit ici, c'est l'anarchie, quoi. Mais bon, je suis pas là pour parler de la justification des religions, de leur qualité, hein. Moi, j'essaye de chercher Dieu s'il existe, là où il est, dans des chemins autres que ce que les livres sacrés me proposent, parce que la part de l'homme me semble évidente, et quand il y a l'homme qui se mêle de la religion, je me méfie.
Alors dans une de vos chansons, vous parlez de l'éducation qu'a donnée un père à sa fille, une éducation qui respecte les traditions, et puis ce père doute beaucoup, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que c'est autobiographique?
Non, ma fille n'est pas. J'ai une fille, donc elle n'a pas. Enfin, elle sort 2 minutes dans le jardin, quoi. Elle va au McDo de temps en temps, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que j'ai bien dit. J'ai fait dire à Grand Corps Malade, j'ai essayé de t'éduquer, de t'élever. J'ai fait de mon mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il était, comment te dire, rigide là-dedans. Tu seras comme ça ou rien. Je voulais simplement montrer quelqu'un qui enlevait sa panoplie de parfaits petits musulmans pour essayer d'ouvrir plutôt son cœur à sa fille, parce qu'au-delà de tout, les dogmes, ils ne sont rien par rapport à l'amour ou ce qu'on peut ressentir avec le cœur. Je peux te dire, moi, qu'en Kabylie, les gens sont musulmans, mais pas à part entière. Il y a des croyances païennes, assassins, tout ça, que la religion n'a jamais réussi à vaincre. Un seul Dieu dans cette région ne suffit pas. Donc, l'islam ou une religion autre, oui, mais à condition qu'elle soit compatible avec des croyances et des certitudes que l'on a vraiment ancrées dans notre tête.
Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre production, qui est pas, qui vous êtes un artiste un peu rare quand même, vous dites que vous n'écrivez pas quand vous n'avez rien à dire. Alors dans le disque qui est sorti en février, qu'est-ce que vous aviez à dire?
Je me suis retourné, je me suis replié sur moi, tout simplement. Et pour te dire la vérité, je ne voulais pas le faire au départ. Et puis après, comme j'étais dans une maison de disques pas qui me harcelait, mais qui demandait gentiment de faire quelque chose, je me suis dit, pour être honnête, il vaut mieux que je parle de moi, de choses qui ont bercé mon adolescence, mon enfance, de restituer ça comme je les ai entendu, mais à ma manière. Et puis, voilà, de parler de ma région natale.
Vous avez dit que c'était un album intime. En quoi il est intime cet album?
Il est intime parce que, par exemple, je parlais de la mort de ma maman, voilà, dans l'album. Il était intime parce que j'ai vécu toutes ces soirées où j'entendais des contes, des légendes, et où je me mettais sous la couverture parce que j'avais peur des ogres. Voilà, ça faisait partie vraiment de ce que moi j'ai vécu.
Par rapport à votre champ musical, vos horizons musicaux, est-ce qu'ils s'élargissent encore aujourd'hui?
Tout le temps, de toute façon, j'ai une vie intérieure qui est bouillonnante, qui est intime. Tu sais, on avance et on se charrie avec soi des choses nouvelles, si bien qu'après tu deviens quelqu'un, pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui aura réfléchi, pris avec lui des nouvelles choses, fait des rencontres, et je pense que c'est ça ce qu'on appelle l'évolution. Et les étoiles en elles-mêmes, l'univers, tout ça se mélange, ça n'arrête jamais. Je ne peux pas rester aujourd'hui dire que je vais faire de la musique kabyle au sens strict du terme, parce que je suis kabyle, ma fille l'est. Elle chante en kabyle, mais elle n'est pas kabyle comme moi. Je ne le suis pas comme mon père l'a été. Parce que sinon, on remettrait en question les théories de l'évolution. Voilà. Et donc, il faut laisser toutes ces choses se faire, trouver des idées, des sons, et puis surtout toucher des gens le maximum avec sa vérité. Voilà. C'est comme ça que je marche.
Le dernier album Inès, avec ta fille, tu as fait un arrangement avec la 9e symphonie de Beethoven. Alors, comment c'est venu cette idée,
Justement, c'est dans cette évolution-là. Je connais Ami Saïd, c'est un vieux bonhomme, musicien, qui fabriquait lui-même ses instruments, qui ne connaît pas du tout Beethoven, mais bon. Et un jour, donc, comme il adorait ma mère, il venait à la maison. Et donc, on mangeait ensemble et tout. Puis, on montait dans le grenier où on fait de la musique. Et un jour, j'ai tapoté avec mes doigts sur l'air de... C'est l'hymne à la joie, voilà. Il était à côté de moi, il me dit, répète pour voir ça. Et comme je l'ai rythmé, il l'a apparenté à un rythme de chez nous qui s'appelle le rythme Shaoui, voilà. Il m'a dit, ça, je connais ce style. Ça s'appelle, je ne sais plus le nom qu'il m'a donné. Et il prend une de ses flûtes, parce qu'il ramène toujours son carquois, et il a commencé à la jouer. Et c'est là où l'idée, donc à Jaï, je l'ai laissé faire, et j'ai pris un bandir et je l'accompagnais donc à la percussion. Et ça donnait quelque chose de marrant, de voir comme ça la symphonie de Beethoven jouer avec les racines chaouïa un peu, tu vois, de l'Est... d'Algérie, je lui ai rien dit. Et après, quand je lui ai dit ça, c'est un gars qui s'appelle Beethoven, attends, je vais te montrer ce qu'il a fait. Et il n'a pas l'air d'avoir compris. Il a écouté la version de Beethoven, il s'est mis en colère, il m'a dit, mais il n'a rien compris celui-là, c'est pas comme ça qu'il faut la faire. Ça, c'est du classique, non? Normalement, c'est comme ça qu'il faut la chanter, il se met à la faire. Et j'ai trouvé que l'histoire était belle, parce que voilà quelqu'un qui ne connaît pas Beethoven, qui ne connaît pas la musique classique, qui a pris son morceau, qui l'a restitué en lui disant, voilà moi ce que j'en fais. Je le ressens ton morceau, je le fais et je le sors de cette manière. Je trouvais que c'était intéressant de la mettre dans le disque.